Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Allez. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, toujours en direct bien sûr, sur CNews et toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Philippe Guibert, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Ravi de vous retrouver au sommaire, le nouveau gouvernement au complet, enfin connecté avec les Français. On y met un point d'interrogation et c'est une question que je vous poserai. Nicole Belloubet remplace Amélie Oudéa-Castéra. Va-t-elle mener une politique de gauche pour l'éducation? Là aussi ce sera une question, mais d'abord la disparition d'un morceau d'histoire.
Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie.
Le discours de l'Assemblée nationale pour l'abolition de la peine de mort le 9 octobre 1981, prononcé par Robert Badinter, l'ancien ministre de la Justice de François Mitterrand, qui en fut l'artisan. En tant qu'avocat d'abord, puis ensuite comme garde des Sceaux, il est donc décédé à l'âge de 95 ans. Et c'est une loi aujourd'hui qui est inscrite à l'encre indélébile pour toujours et qui a sans doute modifié beaucoup de choses dans notre société depuis Geoffroy Lejeune.
Ah bah la politique pénale, déjà, pour commencer. Moi, je vais parler de la... Vous avez dit un morceau d'histoire, le terme est assez bien choisi. Moi, c'est un morceau aussi de mon histoire personnelle. J'avais 15 ans quand mon prof de français, j'étais en 14 ans peut-être en seconde, nous a demandé de lire l'exécution, le livre qui était qui précédait l'abolition en réalité, qui vous racontait l'histoire de Buffet et Bontemps, vous savez, ces deux condamnés à mort qui étaient suspectés d'avoir accusé d'avoir assassiné une infirmière en s'échappant de prison. Buffet était le méchant, il assumait, il plaidait coupable et il voulait absolument que son camarade soit entraîné dans la mort, qui lui plaidait non coupable et les éléments étaient suffisamment... Alors il était innocent, en fait dans le livre c'est pas aussi clairement Badinter à la conviction, mais en tout cas il y a le doute, c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne sait jamais en réalité fait naître chez le lecteur un doute sur le fait que peut-être qu'il était innocent. Et en fait, c'est sur ce doute-là que l'abolition a été votée, parce que c'est l'intime conviction de chacun. Vous pouvez pas tuer quelqu'un qui peut-être est innocent. Bref, c'est très fort. C'est très fort. Et moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai voulu être avocat, puis faire de la politique. Donc il m'a beaucoup marqué dans mon enfance. Et je suis un peu, tardivement, mais un bébé Badinter à cette aune-là. Mais, vous avez dit deux choses, cher Lionel. Premièrement, cette loi marquée à l'encre indélébile dans notre corpus juridique et puis dans la société. Je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est très intéressant de constater qu'en réalité, vous avez entre 45 et 55% de Français qui sont favorables à la peine de mort depuis l'abolition.
Oui.
Et à l'heure où on parle, on est à 50%.
En 2020, 55%. Était pour un rétablissement de la peine de mort.
Absolument. Et aujourd'hui, je crois, j'ai vu le graphique sur CNews tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui on est à 50%. Ce qui me fait dire qu'en réalité, c'est la loi probablement la plus clivante de la société française, puisqu'il y a un Français sur deux qui est... Enfin, les Français sont...
Il y a toujours un débat.
Il y a toujours un débat. Alors, en vérité, il n'est pas médiatique, etc. Mais en tout cas, vous remarquerez, dans la société est clivée en deux sur cette question. C'est le principe du clivage. On dit toujours, l'immigration est un sujet clivant. Non, il y a 80% des Français qui sont d'accord pour l'arrêter. Telle ou telle chose sont clivantes. Beaucoup moins, en réalité. C'est le sujet clivant par excellence. Pourquoi c'est clivant? C'est pas que les gens veulent tuer absolument les criminels. C'est que moi-même, d'ailleurs, je suis... Comment dire, je fais partie des gens qui s'interrogent sur cette question. Il y a des parts de moi qui sont rationnellement, qui voudraient le rétablissement de la peine de mort, même symbolique, pour qu'une hiérarchie des peines retrouve une forme de cohérence. Et des parts de moi, j'étais aussi lecteur de Victor Hugo, Les derniers jours d'un condamné, et qui se laisse embarquer en se disant mais non, on tue pas, et d'ailleurs on défend la vie, etc. Et en revanche, les conséquences sont là. C'est-à-dire que depuis la politique pénale, hormis la peine de mort de Robert Badinter, en réalité, vous remarquez que sur le temps long, sur les 40 années qui ont suivi, puisque personne n'a remis en cause ce qu'il avait fait et ni les grandes orientations, en réalité, notre politique pénale s'est effondrée. Aujourd'hui, les gens vivent de plus en plus dans l'insécurité et dans la peur, et notre système carcéral ne fonctionne plus. Et en réalité, tout ça est par
terre. Parce qu'il n'y a pas la menace de la peine de mort.
Non, pas du tout la peine de mort. C'était, les principes de Christiane Taubira étaient chez Robert Badinter, en dehors de la peine de mort.
Non, je crois vraiment pas.
On se souvient quand même, je vous cède la parole, Philippe Guibert, que dans les années 50, dans les films en noir et blanc de Marcel Pagnol, notamment dans Le Schpoun, Fernandel jouait un article du Code civil, qui était le plus court et le plus tranchant du Code civil à l'époque, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Ça fait un peu peur tout de même. Surtout quand on est en 2024. Et fort heureusement, Philippe Guibert, qu'aujourd'hui, on ne tranche plus la tête d'accusés.
C'est une réforme de civilisation, l'abolition de la peine de mort. En même temps qu'une réforme profonde de justice. Enfin, Badinter l'a dit, expliqué, écrit, prononcé des discours mieux que quiconque. C'était un homme, d'abord d'une grande qualité. Enfin, on l'a écouté tout à l'heure, on a écouté 15 secondes de son discours. C'est-à-dire que Badinter avait une voix, d'abord. C'est une voix, Badinter. C'est une éloquence particulière et qui fait que même pour des choses relativement... là, c'est l'adoption de la loi. On sent un souffle. On sent une certaine grandeur. Donc c'était un homme d'une qualité, d'une culture, d'une éloquence tout à fait exceptionnelle qu'on a évidemment pu dans la vie politique. On regrette souvent la baisse de niveau. Là, avec Badinter, si j'ose dire, et du niveau, il y en avait beaucoup.
Bien sûr.
Est-ce que c'est le dernier des géants de la politique française?
En tout cas, c'est la génération. D'ailleurs, Jacques Delors est mort il y a quelques semaines. C'est la génération qui est arrivée au pouvoir avec François Mitterrand. Et Badinter avait une relation très forte à Mitterrand. On va rendre hommage, et on rend hommage à Badinter pour l'abolition de la peine de mort. À juste titre, n'oublions jamais que c'est Mitterrand qui l'a permise. Mitterrand a eu le courage de prendre l'engagement pendant la campagne électorale. Sa première grande émission télé de la campagne 81, il explique pourquoi il est pour l'abolition de la peine de mort. On parlait d'opinion tout à l'heure. À l'époque, l'opinion était majoritairement en faveur de la peine de mort.
C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, plus personne n'ose.
Oui, mais en tout cas,
Mitterrand
savait très bien, parce que Mitterrand était intelligent et il menait une campagne électorale. Il savait très bien que l'électorat de gauche était favorable à l'abolition. Mais l'opinion globale était défavorable. Et donc, il a eu ce courage d'exprimer sa conviction. Et il a été finalement très peu contesté dans cette campagne de 80 sur ce plan. Il était contesté sur plein d'autres choses, mais relativement peu sur ce plan. Parce que intellectuellement, culturellement, plus grand monde ne défendait la peine de mort à l'époque, mais il fallait quand même le faire et il fallait le dire aux électeurs en face. Et c'est Mitterrand qui l'a fait, c'est Badinter qui, avec son immense talent, l'a mise en œuvre une fois l'élection passée. Il n'a pas fait la grande Badinter responsable de la situation pénale et sécuritaire aujourd'hui. Je trouve que là, Geoffroy, tu exagères un peu.
Non, je dis que c'était léger.
J'aime beaucoup.
Non, mais c'était léger.
Badinter a fait énormément pour la. C'est un des plus grands réformateurs de la justice française. D'ailleurs, il est resté cinq ans, mais il est garde des Sceaux, ce qui est arrivé à relativement peu de ministres. Il y avait d'abord toute une nécessité de remettre la justice française à niveau, parce qu'elle comportait plein d'exceptions, justice d'exception, un certain nombre de lois qui étaient un peu en dehors de ce que faisaient les autres grandes démocraties. C'est le premier qui a mis en place l'aide aux victimes. On l'oublie complètement, cet aspect-là, de son bilan. C'est lui qui a dit il faut s'occuper des victimes et qui a mis des dispositifs en place. Alors peut-être que 40 ans après, ils sont insuffisants ou inadaptés à la situation d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est lui qui a mis les victimes en plein dans le champ de la justice qu'elles n'avaient pas avant. Et puis, je crois qu'on ne peut pas apprécier l'œuvre pénale de Badinter au regard de la situation d'aujourd'hui. Alain Bauer sort un bouquin.
Les causes ont des conséquences.
Alain Bauer sort un bouquin très intéressant, Tu ne tueras point, où il explique très bien que le retour de la violence, c'est depuis une vingtaine d'années. Donc Badinter, c'était dans les années 80.
Non, mais alors, est-ce que ça veut dire que sa loi est décalée aujourd'hui?
Non, pas du tout. Pas du tout décalée. Quelle loi? La loi sur la peine de mort?
Bien sûr.
Ah, surtout pas.
Est-ce qu'elle reste d'actualité?
Non, mais
je pose la question. 55% des Français.
Juste d'un mot avant de te redonner la parole. Ça revient. Alors, dans le cas des attentats terroristes, dans les cas de pédophilie, de crimes d'enfants, il y a des pulsions qu'on ressent tous, d'ailleurs.
Bien sûr.
Qu'on ressent tous, c'est parfaitement humain d'avoir une pulsion de vengeance. Mais jamais le débat n'a été porté dans le débat politique sur le rétablissement de la peine de mort. Ce qui est la vraie victoire de Badinter, elle est là.
Est-ce que la loi fait débat encore aujourd'hui, Geoffroy Lejeune ? C'est-à-dire que quand il y a des actes terribles, comme des actes de terrorisme, de pédophilie, c'est un sujet qui revient, mais en fait, elle inexorablement.
Elle ne fait pas débat, vous avez raison, dans la classe politique, mais elle fait débat dans la société.
Voilà.
C'est-à-dire que vous avez des repas de famille qui tournent mal parce qu'il y a des gens qui sont pour la peine de mort et d'autres qui sont contre. Et l'exemple de la pédophilie, du criminel multirécidiviste ou du terroriste est un très bon exemple. Fondamentalement, je ne choquerai personne en disant que c'est pas ce que je pense, mais je veux dire, quelqu'un qui dirait Salah Abdeslam plutôt que de passer sa vie en prison doit mourir, ou Michel Fourniret, va pas provoquer des esclandres. Et en réalité, ça veut dire que la question existe encore. Et par ailleurs, au moment de l'abolition, la peine de mort n'est pas beaucoup utilisée. Alors, j'ai cité Buffet Bontemps tout à l'heure, mais c'était quelques exécutions par an.
Car on a encore n'a pas gracié certains condamnés à mort.
On exécute encore aux États-Unis, dans certains États aussi.
Alors,
grande démocratie.
Absolument. C'est pour ça que c'est pas une question démocratique en réalité. C'est une question. Moi, je suis d'accord. Il y a une dimension civilisation. Moi, ouais. ce qui me fait pencher pour le côté, c'est pas Victor Hugo, pour le côté anti peine de mort, ce sont mes convictions catholiques. En réalité, c'est d'ailleurs Alain Bauer dit tu ne tueras point. Les 10 commandements l'ont dit avant lui. Mais ce que je veux,
il l'a remarqué.
Ce que je veux juste dire, c'est que en revanche, par contre, si on met de côté la question de la peine de mort, on peut pas résumer Badinter, même si c'est évidemment ça qui
non, tu as raison,
à la peine de mort. Il y a en effet ces 5 ans au ministère de la Justice et cette influence morale qu'il a exercée sur la gauche pour le coup et même sur toute la classe politique française tout au long de sa vie pour des bonnes raisons et moi je prouve aussi pour certaines mauvaises raisons je veux dire évidemment sur la question de l'antisémitisme il avait une légitimité à en parler, son père a été arrêté et déporté pendant la guerre,
il y a son
discours de colère aux Veldives justement, vous m'avez fait honte, on s'en souvient, oui, où il y avait énormément de force,
il a été pris à partie lors de cette cérémonie,
il a beaucoup œuvré aussi pour le droit des homosexuels à une certaine époque.
Ouais, c'est lui qui a aboli, qui a aboli la pénalisation de l'homosexualité. Il faut se souvenir que même si c'était peu mis en pratique, l'homosexualité était pénalisée avant 1980.
Ouais, c'était un délit, effectivement, à l'époque. Un hommage national lui sera donc rendu. C'est ce qu'a annoncé le président Emmanuel Macron aujourd'hui. Écoutez.
Je veux d'abord avoir une pensée pour son épouse, sa famille. Dire aussi ma peine à titre personnel. Je crois que la nation a perdu à coup sûr un grand homme, un très grand avocat, un très grand garde des Sceaux qui évidemment a conduit pour notre pays l'abolition, mais aussi des réformes importantes du code pénal qui a conduit à transformer au début des années 80 la justice de notre pays. Et puis un président du Conseil constitutionnel qui a eu un rôle essentiel à jouer dans la vie de notre démocratie durant de nombreuses années. C'était aussi pour moi, je dois le dire, un sage au-delà de ses fonctions qui a toujours permis d'éclairer les décisions les plus délicates. Un hommage national lui sera rendu.
Et avec son décès, c'est donc une génération de grands politiques qui s'éteint, Geoffroy Lejeune. On en parlait tout à l'heure avec Philippe Guibert. Y a-t-il encore aujourd'hui des politiques vivants de son envergure? Et là, ça nous permet de parler de la classe politique d'aujourd'hui, actuelle.
Venir.
Oui, bien sûr, avec le nouveau gouvernement. Au complet.
C'est horrible parce que je vais vous répondre que je ne vois pas comme ça. À première vue, si je cherchais, peut-être que j'en trouverais un ou deux.
On ne voit pas non plus.
Mais non, on n'en voit pas. Non. Non, c'est une question de classe politique. C'est pas une question de parce que Philippe a cité des gens qui venaient du Parti socialiste. Je pourrais citer dans la même génération des grandes figures.
Bien sûr.
Philippe Séguin, par exemple, avait
une
qualité oratoire.
Ils ont tous
disparu.
Était
comparable à celle de Robert Badinter.
Voilà. Ou alors ils ont des. Je viens de faire une émission avec Philippe Devilliers. Alors je vais peut-être faire rire Philippe, mais je pense qu'il avait une envergure exceptionnelle. Et pour le coup, la différence entre Badinter et Philippe Devilliers, c'est qu'il n'a pas rencontré son destin. En tout cas, il n'a pas eu de destin, pas autant qu'il aurait. Voilà. Mais non, je suis d'accord avec vous, c'est super cruel. Moi déjà, j'ai commencé comme journaliste politique dans les années 2010, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Déjà, la comparaison entre cette époque-là et celle d'aujourd'hui est consternante. Donc c'est sûr que quand vous regardez des archives de discours ou que vous lisez les échanges à l'Assemblée nationale sous Mitterrand ou sous Chirac ou sous Giscard, vous tombez un peu de votre chaise, c'est un peu désespérant.
Donc le nouveau gouvernement au complet est-il... La transition est retrouvée, Philippe Guibert, vous l'avez compris, vous avez même quasiment rédigé le conducteur de cette émission, vous saviez que nous allions parler de cette deuxième thématique, connectée avec la réalité. Est-il connecté avec la réalité ? Ce gouvernement, c'est politique aujourd'hui, c'est un reproche, on en parlera plus tard, qu'a fait notamment François Bayrou à ce gouvernement.
Oui, alors François Bayrou faisait référence au fait qu'il y avait pas assez de ministres de province, du sud de la Loire en particulier. Mm-hmm. Mais je crois qu'il visait encore plus une certaine technocratie parisienne, qui est celle qui gouverne, parce qu'il y a les ministres, mais l'épaisseur politique des ministres compte beaucoup, l'expérience politique. On vient de parler de Robert Badinter. Mmh. Quand il arrive garde des Sceaux, il a 20 ans de connaissance de son secteur et d'engagement avant de devenir ministre.
Oui, enfin, comme Nicole Belloubet, c'était une catastrophe.
Je ne suis pas sûr qu'elle ait 20 ans de pratique.
Ah bah c'est, au moment où elle est nommée garde des Sceaux, tout le monde dit enfin une grande professionnelle.
Oui, tu as peut-être raison. C'est peut-être le contre-exemple.
On parlera de Nicole Belloubet dans un instant.
Mais juste sur la question de la politique pénale, parce que je parle de elle garde des Sceaux à l'époque.
Ouais.
C'est juste que j'ai pas vraiment terminé tout à l'heure. J'affirme, je répète que la politique pénale, en fait, la France, sur ce plan-là, en 1981, se tient encore debout. La politique pénale, 5 ans plus tard, en 86, quand il quitte son les germes de ce qu'on vit aujourd'hui, les germes de Taubira, de Dupond-Moretti ou de Nicole Belloubet, qui a quand même l'idée,
vraiment pas d'accord avec
qui a quand même l'idée de libérer des prisonniers pendant le Covid alors que les Français sont enfermés chez eux, tout ça est déjà chez Robert Badinter. En fait, c'est déjà dans le rousseauisme.
Non.
C'est l'homme est bon et c'est la société qui l'a perverti.
Donc tu caricatures bon, là. Car honnêtement, tu
non, je, bah, écoute, je suis désolé.
En plus, j'ai remarqué
c'est une différence même fondamentale gauche-droite.
C'est une obsession toujours de rendre la gauche responsable des choses alors que sur les 40 dernières années, la droite a gouverné 20 ans, mais largement autant que la gauche.
La gauche fait beaucoup
et
de mal
la droite, et la droite ne remet jamais en cause. La droite ne remet jamais en cause les réformes de la gauche que tu
critiques. Parce qu'elle a un problème de courage, tu as raison.
Ah bah alors, c'est un problème. Si la droite dans ce pays ne gouverne pas comme... Moi, j'ai pas remarqué que Nicolas Sarkozy, par exemple, manquait de courage. On peut dire beaucoup de choses de Nicolas Sarkozy.
Il a beaucoup de qualité, mais
honnêtement,
suffisamment de choses.
Qu'est-ce qui l'empêchait de remettre en cause ce qu'il avait envie de remettre en cause?
Je suis d'accord avec toi.
Donc, je trouve que l'argument ne tient pas.
Bah si. Je suis d'accord
avec toi. Je pense que tu compares des situations qui n'ont rien à voir, parce qu'entre les années 80 et les années 2010 et 2020, en termes d'insécurité, de justice, ça n'a rigoureusement rien à voir.
Pour passer de tout va bien à tout va mal, il faut beaucoup de socialisme, c'est ça que je veux dire.
Et peut-être beaucoup d'incompétence, que ce soit de droite ou de gauche, parmi les politiques d'aujourd'hui.
Mais pour revenir, personne n'a dit que tout va bien. Pourquoi tu prends des arguments caricaturaux pour parler d'une situation personnelle? Tout allait bien dans les années 80.
Tout le monde préférerait aujourd'hui vivre dans les années 80 que dans l'époque qu'on vit.
Oui, vous le dites.
À tous les niveaux.
Mais le taux d'homicide, enfin là je reprends du Bauer, hein, le taux d'homicide a baissé quasiment historiquement jusque dans les années 90 à peu près. Et puis Bauer démontre très bien que le taux d'homicide, non seulement il remonte dans les dernières années, mais les tentatives d'homicide ont progressivement explosé depuis une vingtaine d'années.
Oui,
donc il y a eu une rupture, il y a eu une cassure qui se situe en gros aux alentours des années 2000, dont il faut comprendre les causes.
C'est la faute aux politiques.
En partie, certainement, ils n'ont pas su adapter l'État du point de vue sécuritaire et du point de vue de la justice à l'évolution de la situation, qui a parfois été déniée. Là-dessus, on pourra avoir une critique sur la gauche, que j'ai bien connue à l'époque, notamment en 2002. Donc, voilà, ça c'est un sujet vrai, mais qui ne nous renvoie pas aux années 80. Pour revenir à ce gouvernement... Le problème, déconnecté, qu'est-ce que ça veut dire? On a des maires, on a des gens qui ont été élus locaux dans ce gouvernement. Le problème est le fonctionnement du gouvernement et le triomphe de la technocratie parisienne à travers le macronisme. C'est ça le sujet. Parce que c'est très centralisé la prise de décision entre Emmanuel Macron et son secrétaire général Colère. Et donc, je pense que derrière la révolte de François Bayrou, qui est très solitaire pour l'instant, je pense qu'il y a ce procès-là qui est fait au macronisme. Par François Bayrou. Et ça fait plusieurs années, en réalité, quand on suit ces déclarations, ça fait plusieurs années qu'il est gêné par cette évolution. Et là, ça a explosé. Peut-être que ça annonce la fin du macronisme aussi.
Ouais.
Mais un gouvernement déconnecté, quel est le poids politique des ministres par rapport à l'administration? C'est ça la vraie question. Plus que de
par rapport à la réalité, si on prend l'exemple des agriculteurs, on a eu le sentiment que le gouvernement actuel, Gabriel Attal en tête, ont découvert... La crise des agriculteurs.
Les ministres pas... ministre de l'Agriculture.
Ouais, mais en l'occurrence, ça n'a pas empêché qu'il y ait eu une crise.
Et que système...
dans le sud de la France, les agriculteurs seront encore sur des barrages. Demain, ce week-end.
Et, il est pris
et que ça
dans
va
un
continuer. Exactement.
Qu'il n'a pas voulu renverser, qui est celui de la technocratie européenne, prolongée par la technocratie.
Mais cela inspire tout de même, Geoffroy Lejeune, des atermoiements. Parce que cette deuxième vague de remaniement, il a fallu plus d'un mois.
C'est pas la première fois qu'on a un mois d'attente pour le remaniement et tout ça pour ça.
Voilà, et tout ça pour ça.
Ouais. Alors moi, je suis bien sûr évidemment tout ça pour ça. C'est un peu consternant. Vous venez de parler des agriculteurs. Je trouve ça hyper intéressant. Meilleur exemple au monde pour expliquer le problème. Je suis pas sûr que ce soit juste un problème de déconnexion. Qu'est-ce qui s'est passé au moment des agriculteurs? Moi, je connais pas mal de ministres dans ce gouvernement et je ferai le reproche à aucun d'être déconnecté. Ils ont tous une vie, comme tout le monde. Donc, ils sont conscients de certains problèmes de la vie des gens. Premièrement. Deuxièmement, certains sont élus. Certains ont même dirigé des exécutifs locaux. Donc, en fait, c'est pas un problème de déconnexion. Ils sont pas déconnectés de tout. En revanche, quand vous prenez la crise des agriculteurs et que vous la décortiquez la manière dont politiquement ça a été géré, vous avez un Premier ministre, appelons-le Candide, comme dans le livre de Voltaire. Il me fait penser à lui parce que lui, pour le coup, on ne peut pas lui faire le reproche de découvrir les choses. Il a 34 ans, il était ministre de l'Éducation il y a encore 2 mois. Donc, objectivement, c'est normal qu'il ne soit pas au courant du problème. Il fait des rendez-vous avec des agriculteurs, des syndicats, tous. Et il prend dans la figure la vague de protestation pour laquelle il n'est absolument pas responsable et il essaie de comprendre et de tirer des solutions pragmatiques de bon sens. Sauf que, quelles sont-elles? Et c'est là où je vais en venir. C'est pas un problème de déconnexion, c'est un problème d'incompatibilité entre le réel et l'idéologie que porte le macronisme en elle. La leçon de la crise des agriculteurs, c'est que il faut remettre en cause les accords de libre-échange, donc en fait le libre-échange généralisé comme une vertu. Il faut remettre en cause l'Europe telle que définie comme l'horizon indépassable de notre bonheur et de notre prospérité, définie par Macron à la Sorbonne quand il a commencé son premier quinquennat. Et il faut remettre en cause l'écologie, alors qu'ils n'ont eu de cesse de se repeindre en vert en expliquant qu'ils allaient faire des pactes verts, Farm to Fork à Bruxelles, etc. etc. Donc il faut remettre en cause les trois piliers oui. de leur idéologie.
Mais il a fallu colmater les brèches quand la situation s'est aggravée.
Bien sûr, évidemment, vous avez raison.
Et Gabriel Attal débarque sur le terrain de l'agriculture. Il ne savait peut-être pas ce qu'était le glyphosate au moment où il est allé sur le terrain rencontrer les...
Je ne vais pas lui reprocher.
Non, mais c'est un exemple.
Je ne vais pas lui reprocher à lui. C'est pour ça que je dis, c'est Candide. Il arrive, il comprend ça. Il se dit, bon, il faut que je tire des conclusions. Les trois choses que je viens d'énumérer, il ne peut pas les remettre en cause parce que c'est au fond la matrice du macronisme. Donc, il colmate les brèches, comme vous dites. Donc, il annonce des petites mesures, ils repartent parce qu'ils sont bien élevés, ils repartent chez eux sur leur tracteur et ils se rendent compte 15 jours après que en réalité, à part colmater les brèches, ils n'ont rien fait, que les accords de libre-échange continuent à être négociés, que l'écologie...
Ça, c'est normal, ils
voulaient pas ça. Voilà, ils voulaient pas ça, ils voulaient que ça s'arrête.
Oui, mais à partir du moment où tu connais la règle, c'est une fois que les négociations auront abouti ou pas, que les gouvernements, que Emmanuel Macron pour la France... pourra dire oui ou non. Mais à partir du moment où les négociateurs ont un mandat de négociation de la part de la vingtaine de pays européens, ils continuent leurs négociations. Et c'est ensuite qu'un État, la France en l'occurrence, peut dire là on n'est pas d'accord. Donc je pense qu'il est trop tôt pour tirer des plans sur la comète, sur je suis d'accord par ailleurs sur ton constat, sur le logiciel macroniste, libéral, européiste, qui prend en plein fouet un changement du monde qu'il n'avait pas du tout anticipé, qu'il n'avait pas intégré, qui était même contraire à sa vision du monde. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Bon, ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce gouvernement Attal ne suscite pas énormément d'enthousiasme auprès des Français. On peut voir, tiens, avant la page de publicité, ce sondage Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro, où on voit qu'il y a 63% de Français qui sont insatisfaits de la composition de ce gouvernement. Seules les nominations du Premier ministre, le maintien de Bruno Le Maire à Bercy contente une majorité. Il y a même le phénomène Dati qui ne séduit qu'un tiers des Français qui ont répondu à ce sondage. On continue d'évoquer la politique et le cas de la nouvelle ministre de l'Éducation dans un instant, Nicole Belloubet. Ce sera après la pause et les informations sur CNews. Évidemment, nous revenons dans quelques instants dans Ça se dispute. On se retrouve en direct sur le plateau de Ça se dispute avec Philippe Guibert, avec Geoffroy Lejeune. Les débats reprennent dans quelques instants, mais d'abord un point sur l'information. Mickaël Dos Santos, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Après la mort de Robert Badinter à l'âge de 95 ans, un recueil de condoléances est disponible jusqu'à dimanche au ministère de la Justice. Tous ceux qui le souhaitent pourront écrire un message pour rendre hommage à l'ancien garde des Sceaux. Un hommage national sera également rendu au père de l'abolition de la peine de mort. Benjamin Netanyahou veut évacuer la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien a ordonné à l'armée de préparer un plan d'évacuation de civils et de destruction du Hamas. Ces dernières heures, les États-Unis et l'ONU s'inquiètent d'une éventuelle offensive dans cette zone refuge pour plus d'un million de Palestiniens. Et puis enfin, à Madagascar s'attaque aux violeurs de mineurs. Adopté par le Parlement, un texte de loi prévoit des peines de castration chirurgicale ou chimique en fonction de l'âge de la victime. Avant d'être promulgué par le président, il devra être validé par la Haute Cour constitutionnelle de l'île de l'océan Indien.
Merci Mickaël. 21h pour 22h plus exactement pour le prochain point information sur CNews. Ça se dispute avec, comme chaque vendredi, Geoffroy Lejeune, Philippe Guibert et le ministère de l'Éducation nationale qui change de tête. Donc Nicole Belloubet remplace Amélie Oudéa-Castéra, l'ancienne garde des Sceaux, a eu une carrière longue et engagée dans l'Éducation nationale. Vous allez le constater avec ce parcours, ce retour sur son parcours et son portrait signé Clotilde Payet.
C'est un retour aux affaires pour Nicole Belloubet, désormais à la tête de l'Éducation nationale.
L'Éducation nationale, c'est mon milieu d'origine. Par vocation, par passion pour le plus noble des métiers, celui d'enseigner.
Une passion qu'elle a exercée comme professeure de droit à l'université, comme rectrice des académies de Toulouse et Limoges de 1997 à 2005, ou encore comme chargée de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour la région Midi-Pyrénées. Une ministre qui n'en est pas à son coup d'essai dans le système éducatif. Au-delà de ses anciens postes à l'éducation, Nicole Belloubet a été une femme engagée, comme en 2005 où elle démissionne avec fracas de son poste de rectrice. Son but, dénoncer le manque de moyens octroyés par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. En 2016 encore, ses prises de position font choc lorsqu'elle publie une tribune dans laquelle elle dit vouloir supprimer le ministère de l'Éducation nationale, provocation volontaire pour dénoncer les lacunes du système éducatif de l'époque. Une femme déjà bien engagée sur ces questions donc, de quoi rassurer les syndicats de l'enseignement qui attendaient une ministre de plein exercice pour endosser le rôle.
Voilà, je précise que Nicole Belloubet a adhéré au Parti Socialiste en 1983, qu'en 2017 elle déclarait rester fidèle aux valeurs de Jaurès. Je vous pose la question, Philippe Guibert, est-ce que l'éducation nationale, avec Nicole Belloubet, va passer à gauche, avec des valeurs de gauche, en contradiction avec sa prédécesseuse Amélie Oudéa-Castéra?
Si elle reste fidèle aux valeurs de Jaurès, je m'en féliciterai, parce que Jaurès est le co-auteur de la loi sur la laïcité. C'était dans le prolongement des grandes lois républicaines sur l'école laïque publique et obligatoire. Et donc, si c'est cette conception de l'éducation assez exigeante, celle des hussards noirs de la République, dont on a tous la nostalgie, même si le monde a changé, je m'en féliciterai. Là où j'ai une hésitation pour répondre à votre question, c'est que je ne sais plus exactement ce que c'est que la gauche en matière éducative. Si c'est compris comme celle du pédagogisme et du manque d'exigence, je serais moins emballé. Mais je ne connais pas les convictions.
C'est la priorité au public versus le privé.
Mais ça ne veut rien dire, parce que le problème est réglé. Ils concourent tous les deux au service public de l'éducation.
Il n'a pas été réglé pour Amélie Oudéa-Castéra. Hein.
Non, mais ça, voilà. Elle a réveillé un problème qui n'en était pas un. Enfin, plus exactement. Le vrai problème, c'est la dégradation de l'école publique et le fait que de plus en plus de parents mettent leurs enfants dans l'école privée. C'est un certain échec de l'école publique. Donc, de ce point de vue-là, je ne connais pas les convictions précises de Nicole Belloubet dans ce domaine. Je suis d'abord frappé par plusieurs choses. D'abord, parce que c'est la correction d'une erreur de casting, quand même. Madame Oudéa-Castéra était très bien comme ministre des Sports. À l'Éducation nationale, à l'évidence, ça ne le faisait pas, comme on dit familièrement.
Rien. On n'en sait rien, elle n'a rien fait.
Deuxièmement, d'aller chercher une ministre qui, je ne veux pas lui faire de procès à l'intention, mais qui n'a pas laissé un souvenir impérissable au ministère de la Justice, est quand même une démarche étrange. On pourrait imaginer que pour l'éducation nationale, le macronisme fait appel à des personnalités qui ont un poids politique. Nicole Belloubet n'a pas un grand poids politique. François Bayrou a refusé, mais je ne sais pas si Gabriel Attal voulait vraiment, quoi qu'il en soit, lui donner le ministère de l'Éducation nationale. J'en suis pas du tout convaincu, pardonnez-moi. On va attendre de voir ses premières déclarations au-delà d'une passation de pouvoir qui est toujours un peu un exercice convenu. Normalement, il y a une ligne qui est fixée quand même, qui est celle du président de la République et du Premier ministre, qui a dit qu'il emmenait l'éducation nationale avec lui à Matignon et qui avait fixé quand même une ligne en tant que ministre de l'éducation nationale qui est censée se prolonger. Donc normalement, Mme Belloubet doit mettre ses pas dans ceux de Gabriel Attal. On verra ce qu'il en est. Gabriel Attal aussi était issu du Parti Socialiste et dans certaines de ses déclarations, tout à fait fidèle aux idéaux de...
Et il a été, même si ça n'a pas duré très longtemps, un très bon ministre de l'Éducation nationale.
En tout cas, qui a pris des décisions qui étaient attendues après des mois et des années d'atermoiement.
Absolument. Geoffroy Lejeune, je reviens sur ce qui a été dit dans le sujet. En 2016, Nicole Belloubet, alors par provocation, en effet, ce qui prouve qu'elle a du tempérament, elle évoquait la suppression de l'éducation nationale, le ministère de l'éducation nationale. Je la cite, « Les inégalités que le système éducatif français ne sait pas corriger sont de plus en plus criantes et font fuir le service public pour rejoindre l'entre-soi des classes homogènes dans l'enseignement privé. »
Déjà, à cette époque-là, elle opposait le public et le privé. Ouais, ça... Est-ce rassurant ?
Ah bah, ça promet, hein. Enfin, je veux dire... Pour tous les gens qui avaient un peu peur de que cette inégalité de traitement continue, au moins on sait comment on va être servi.
Inégalité ensuite, de traitement.
Ah bah je veux dire.
On peut pas dire ça.
Ah si, ah si, si.
Pas le privé, ça. On peut pas dire ça. En termes de moyens. Déjà, il y a, pas d'inégalité de traitement.
Mais il y a une suspicion permanente qui repose d'ailleurs exactement là-dessus. En fait, c'est très intéressant. C'est les classes homogènes du privé, c'est mal, etc. Mais par contre, on met nos enfants dedans. C'est exactement d'ailleurs ce qui a explosé à la figure de Amélie Oudéa-Castéra, etc. Un petit mot sur Amélie Oudéa-Castéra. Au passage, c'est pas une erreur de casting. On saura jamais si c'était une erreur de casting. Elle n'a pas été ministre de l'Éducation nationale. Elle a fait, évidemment, en communication, maladresse sur maladresse, et je la défendrai pas là-dessus. En revanche, sur le fond, sa seule erreur est d'avoir mis ses enfants dans le privé. Justement, encore.
Non, c'est pas ça, son erreur. Non, c'est absolument pas ça, son erreur.
C'est d'avoir menti.
C'est pas d'avoir mis ses enfants dans le privé.
Désolé.
S'il avait dit, excusez-moi, c'est mon choix, j'ai mis mes enfants dans le privé, il n'y avait pas d'affaire au DHA.
Elle a menti sur l'école publique. Je répète.
Qu'elle a désigné elle-même, et c'est ça son erreur fondatrice. C'est un mensonge, c'est pas une maladresse.
Une meute de chiens s'est jetée sur elle. Pas parce qu'elle a été mauvaise en communication, ils se sont acharnés parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle mettait ses enfants dans le privé. Ah bah, quand tu vas poser la question en disant alors quand même, expliquez-nous pourquoi ils sont dans le privé, etc. Bien sûr, elle a mal répondu, mais à l'origine,
elle a répondu par un mensonge.
Ensuite,
en mettant en cause l'école publique,
c'est pas que ça a été une mauvaise ministre, c'est qu'elle a pas été ministre, elle a fait que de la communication mal pendant un mois. On saura jamais.
Elle a géré la crise.
Je signale quand même qu'elle a provoqué la démission du recteur de Paris, une de ses rares décisions.
Qui est un camouflet pour elle.
Qui était un camouflet pour elle, mais le recteur de Paris avait appris ses décisions par voie de presse, et ça prenait complètement le contre-pied sans qu'il en était prévenu, des décisions de la ministre. Ce qui était plus qu'une maladresse. En réalité, elle n'avait pas le poids politique et la stature politique pour ce ministère.
Sans doute. Moi, je voudrais répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, Lionel, à Philippe. Vous avez dit, est-ce que l'éducation nationale repasse à gauche ? Moi, je vais vous répondre, elle reste à gauche, en réalité. C'est-à-dire que elle a toujours été à gauche. Les syndicats, ils sont ultra puissants. Les déconstructeurs se sont jetés sur l'école publique, acharnés pendant 40 ans pour que plus rien n'y existe comme avant, c'est-à-dire que tous les savoirs soient bannis, enfin que les savoirs soient bannis, que les méthodes soient changées, que les enfants qu'on apprenne à apprendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Qu'on apprenne à apprendre au lieu d'apprendre tout court. Bref, cet acharnement contre ce qui faisait le succès de la fameuse école républicaine de Jules Ferry que tu aimes beaucoup, en fait elle a été détruite par les pédagogistes et aujourd'hui on a eu pendant 5 mois une illusion d'optique qui s'est appelée Gabriel Attal, qui a pris des décisions, tu as raison, courageuses sur les sujets Abaya, etc., et qui a impulsé, parce que c'est un homme intelligent, qui a impulsé une révolution sémantique qui parlait de redoublement, qui parlait de savoir, qui en fait était en train de commencer à changer, pour le plus grand bonheur d'ailleurs de l'opinion, et ça lui a valu d'être propulsé à Matignon, d'impulser un changement avec ce discours catastrophique. Et ça a duré 5 mois. Malheureusement, il a été nommé à Matignon, donc tant mieux pour lui, tant pis pour l'école. Et on ne saura jamais ce qu'aurait donné sa politique, les résultats qu'aurait eu sa politique.
Il a repris tout ça dans sa déclaration de politique.
Notre ami, en même temps, Emmanuel Macron, a décidé de faire comme il a fait au ministère de l'Éducation nationale à chaque fois, Blanquer, Papa Ndiaye, Attal, Belloubet, de mettre quelqu'un qui pense l'exact inverse. Donc l'éducation nationale va rester à gauche. Vous pouvez être sûr et certain que les syndicats vont être bien traités, que l'uniforme va être bien empêché, alors que c'était une décision qui avait été
On verra ça.
Alors, okay, avec elle, il n'y aura pas l'uniforme avec Nicole Belloubet. Pas d'uniforme dans les écoles.
En tout cas, elle trouve que c'est une faribole. Donc peut-être qu'elle va manger son chapeau et le mettre en place, mais c'est comme ça qu'elle a qualifié l'uniforme à l'école. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce que prouve le passage de témoin entre Gabriel Attal et Nicole Belloubet, c'est que il aurait fallu, pour espérer commencer à remonter la pente dans le domaine de l'éducation nationale, du poids politique, un volontarisme hors du commun et une constance dans l'application. Ça, on l'a perdu.
Je vous cède la parole, Philippe Guillard, dans un instant. Je voudrais juste vous poser la question, et vous allez pouvoir répondre évidemment à Geoffroy Lejeune. Est-ce que c'est l'anti-Amélie Oudéa-Castéra aussi, si elle a été nommée? Et est-ce qu'elle a réussi son entrée avec son discours? Ce qui n'a pas été le cas pour sa première conférence de presse de Oudéa-Castéra quand elle s'est exprimée aux côtés de Gabriel Attal dans ce collège sur l'histoire de ses enfants dans le privé. Nicole Belloubet, elle, s'est exprimée en pensant notamment, écoutez-la, aux professeurs Paty et Bernard.
J'ai évidemment, en ce moment précis, une pensée pour Samuel Paty et Dominique Bernard. Car l'école, c'est avant tout le lieu où se forge la République, pleine de promesses pour chacun. La République, toute la République, rien que la République, disaient les révolutionnaires de 89.
A-t-elle réussi son entrée ?
Bon, cette déclaration est la bienvenue. Le rappel de l'hommage à Samuel Paty à Dominique Bernard est bienvenu pour une nouvelle ministre de l'Éducation nationale.
Qui disait du mal de Mila en 2016.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Sa déclaration, soyons clairs, sa déclaration en 2016 sur mi 2000, pas 16, 2018.
Pardon, 2018.
Sur Mia était parfaitement scandaleuse et d'ailleurs elle l'a rectifiée devant le tollé. Bon, là où je diverge de Geoffroy, c'est que je pense qu'il y a une ligne qui a été fixée. Et je pense que Gabriel Attal, en tant que Premier ministre, ayant fixé et largement contribué à fixer cette ligne et à engager un certain nombre de mesures dont tu as raison de dire qu'il faut de la continuité, de la cohérence, c'est maintenant qu'on va pouvoir juger sur pièce. Et je ne suis pas tout à fait convaincu que Mme Belloubet aura une énorme autonomie d'action par rapport à la ligne qui a été définie par Gabriel Attal. Mais c'est maintenant le moment de vérité pour le macronisme sur l'éducation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir autant changé de ministre pour des raisons diverses et variées et ne pas avoir une ligne et la tenir. Et si on juge que celle qu'avait fixée Gabriel Attal allait plutôt dans le bon sens, alors à ce moment, c'est le moment de vérité pour le macronisme. Il en connaît bien d'autres moments de vérité, le macronisme, hein, en ce moment. Mais c'est maintenant ou jamais où on poursuit l'action. La révolution sémantique a été faite. Maintenant, il faut qu'elle soit suivie d'actes. Là, de ce point de vue-là, je te rejoins.
Ou alors, c'est un choix par défaut, Geoffroy Lejeune. Puisque je le disais tout à l'heure, François Bayrou aurait pu peut-être être ministre de l'Éducation. Il s'est montré faux gourmand, on va en parler dans un instant.
Il aurait eu, par nature, par son poids politique, une autonomie.
Oui.
Que, me semble-t-il, Nicole Belloubet...
Et qu'il n'a pas obtenu, manifestement.
Et qu'on ne voulait pas qu'il obtienne.
Exactement. Choix par défaut ? Belloubet, problème de casting.
Je comprends plus les castings en fait d'Emmanuel Macron. Je comprends vraiment plus. C'est comme Éric Dupond-Moretti. Enfin, je sais que ça fait longtemps qu'il est là, mais en fait, c'est un coup, c'est rigolo, ça fait parler trois jours, et puis derrière, vous voyez, vous avez Christiane Taubira en pire au ministère de la Justice. C'est quand même très compliqué. Si pour le coup, je pèse mes mots sur la politique pénale. Comment vous dire s'il faut une révolution pour alors elle cite 1789 comme si c'était une date glorieuse. Enfin bon, ça me passons.
Oui, c'est une date glorieuse quand même.
C'est une date importante. Mais c'est pas une date glorieuse, je veux dire.
C'est une date fondamentale de l'histoire de France, Geoffroy. Là, je t'en suis plus quand même.
J'ai dit une date importante, c'est pas glorieuse, excuse-moi, je suis désolé, tout n'est
pas glorieuse.
La Révolution française,
on parle de 1789.
Pardon, c'est très proche déjà pour commencer, et ensuite la Révolution et a pour conséquence directe la
Terreur. Alors, t'en es à remettre en cause la Révolution française de 1789.
Quand elle dit.
L'Assemblée nationale qui devient nationale.
Quand elle dit.
La fin de la souveraineté royale, t'es devenu monarchiste.
Elle dit, c'est pas une question de monarchisme, elle dit.
Ah, si, un peu.
La République, toute la République, rien que la République, c'est le slogan des gens qui ont exterminé la Vendée. Moi, je veux bien que tu sois à l'aise avec ça. Mais
tu peux pas assimiler le message républicain à la tentative d'extermination de la Vendée. Enfin, je veux dire, la République, fort heureusement, c'est le régime de la France. Et il est né, je suis désolé, en 1793. C'est une bonne chose.
93 ou 89
Non, la République, c'est 1792, pour être précis.
D'accord. Donc,
1789, c'est la souveraineté nationale à la place de la souveraineté réelle, et c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Tout ça pour
si t'as
dire.
Un problème avec ça, Geoffroy,
Non, mais moi, j'ai aucun problème à l'idée de vivre en République. Je dis juste, en fait, que.
Bon, tu me rassures un peu.
Non, mais il faut dire tout ce que c'est. Il faut dire tout ce que c'est et comment c'est né, en fait.
Quoi, la République, tu veux refaire le débat sur la terreur?
Non, pas du tout. Je pense que. En plus, je veux pas faire le débat. Juste, je veux rappeler les choses en entier. Parce qu'elle le fait pas. Bon. Mais je n'utilisais pas le terme révolution pour ça. C'est que tu viens de dire, il faut une révolution si on veut changer l'éducation nationale. Pour faire la révolution, il faut des révolutionnaires. Gabriel Attal avait une mentalité de puncher. Il a décidé d'empoigner la chose et d'y aller. Et il a mis son poids politique en jeu en prenant des risques. La baïa, c'est un vrai risque politique parce que s'il prend une veste, que c'est pas suivi d'effet dans les écoles, etc., ben il n'est pas Premier ministre après et sa carrière politique s'arrête. Nicole Belloubet, je pense qu'elle ne veut pas faire la révolution. Je pense qu'elle trouve l'éducation nationale formidable comme ça. Du reste, tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a dit pour l'instant publiquement sur le sujet, les fariboles sur l'uniforme et la suppression du ministère de l'Éducation nationale va dans le sens.
C'est une provocation, la suppression de l'Éducation nationale.
Mais les raisons qu'elle liste
contre l'affaiblissement de l'école publique.
Donc les raisons qu'elle liste pour ça et son jugement très défavorable sur le privé prouvent que globalement elle n'a pas prévu d'aller a priori dans le même sens que Gabriel Attal. Donc je dis juste voilà, je veux bien lui laisser le bénéfice du doute, mais à force de laisser le bénéfice du doute, on est quand même souvent déçus.
On verra. Peut-être que tu as raison, mais alors à ce moment-là, ça voudrait dire que le macronisme a été la plus grande catastrophe pour l'éducation nationale qu'on a connue depuis des décennies. Parce que ça veut dire qu'en changeant de politique tous les 6 mois, on est en train de massacrer
ce qui était présenté comme la mère de toutes les batailles. L'expression est de Gabriel Attal.
Et c'est peut-être ce qu'a voulu dire François Bayrou en jetant un pavé dans la mare, en claquant la porte du gouvernement avant même de l'avoir passé, bien sûr, du dernier gouvernement. On en vient pour terminer l'émission au président du Modem, qui a affirmé qu'il y avait un désaccord politique à suivre. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a commis une erreur d'ailleurs et que si sa stratégie c'est de pouvoir se présenter à la présidentielle et de gagner, est-ce que ce n'est pas une hérésie ou une mission suicide ?
Non, moi je comprends la réaction de François Bayrou comme une libération de l'emprise du macronisme. Et je pense que d'une certaine manière, il a inauguré la fin du macronisme. Je pense que...
Il l'a déclenché ?
Ouais, c'est-à-dire qu'il le... Il a soutenu Emmanuel Macron. Tout le monde a rappelé le rôle important qu'il avait eu en 2017 au moment où il décide de soutenir Macron. Il y avait quand même une tonalité critique, y compris sur la nomination de Gabriel Attal tout récemment, mais quand même plus ancienne de critique, de distance par rapport à l'action du gouvernement et du président de temps en temps. Et là, ça a d'une certaine manière explosé. C'est-à-dire que ce qu'il a demandé, ce qu'il voulait faire compte tenu de son poids politique, à l'évidence, ça lui a été refusé par Gabriel Attal, par machiavélisme, par Emmanuel Macron qui s'est servi de Gabriel Attal, peu importe l'interprétation qu'on a. Là, il se retrouve tout seul, mais c'est une posture qu'il ne déteste pas, François Bayrou. Il prépare 2027. Moi, je pense qu'il annonce des difficultés dans la majorité macroniste, ça laissera des traces qui s'ajoutent aux traces qui ont été laissées par la loi immigration, y compris même dans la première vague de nomination du gouvernement. Donc je pense que le macronisme tel qu'on l'a connu est en train de franchement s'effriter et que le président de la République, sauf qui ne prend pas d'initiative politique d'ampleur de revenir devant le peuple, eh bien, il risque de voir sa majorité nettement s'effriter d'ici à 2020.
Pour autant, François Bayrou est-il renforcé donc avec cette sortie ? Le Figaro, le sondage Odoxa, Le Figaro, 76% des Français approuvent la décision de François Bayrou de ne pas rejoindre le gouvernement. Donc, est-ce que, comme le dit Philippe Guibert, c'est le début de la fin pour le macronisme ?
Peut-être.
Et la porte ouverte donc à François Bayrou président ?
J'irai pas jusque-là quand même.
Non, oui, c'est un peu non, ça, mais c'est un peu ça, sa stratégie quand même.
Je suis étonné par le chiffre du sondage, pour être honnête. Je suis pas certain que je ne pensais pas que les Français savaient qu'ils n'étaient pas entrés au gouvernement. Moi, je vais être plus dur avec sa stratégie. Je connaissais l'expression rater sa sortie, je connaissais pas rater sa non-entrée. Je pense qu'il a raté sa non-entrée au gouvernement parce que, on a bien compris la dimension personnelle du problème. C'est-à-dire, en gros, il était contre Gabriel Attal, il y a eu des discussions entre eux, etc. Il est vexé, finalement, il est pas content et il décide de pas rentrer et de l'annoncer lui-même. Très bien, ça on a compris. Les conséquences, peut-être que Philippe a raison, c'est très probable d'ailleurs. Moi, ce que je trouve raté dans cette séquence pour lui, c'est que il aurait dû expliquer pourquoi il est en désaccord. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. Si vous cherchez bien dans le bayrouisme, entre guillemets, il aurait pu s'attaquer à la déconnexion, à la technocratie, comme Philippe le disait tout à l'heure.
C'est un peu ce qu'il a fait. Hein,
oui, mais attends, excuse-moi, je suis désolé, je pense que nous on est au courant, mais que je pense que les Français n'ont pas du tout compris ça. Et la vérité, c'est qu'en fait, au fond, pour moi le drame, c'est que même s'il a toutes ces critiques-là et qu'elles sont parfaitement formulées, on a envie de lui dire pourquoi en 2017 l'avoir soutenu, trois semaines après l'avoir durement critiqué dans les médias, pour les raisons qui conduisent aujourd'hui à le quitter. C'est ça qui est un peu gênant.
C'était encore un très bon ça se dispute. Oui, franchement. Encore une fois, je le dis à chaque fin d'émission, je suis très impatient de vous retrouver vendredi prochain sur CNews.
Nous aussi. Merci.
C'était vraiment magnifique. Quelle très très belle émission. Vous pouvez la revoir d'ailleurs si vous utilisez l'application CNews, où vous retrouvez les chroniques, les infos et donc les émissions en replay. Vous scannez tout simplement ce QR code. Je sais que vous l'avez fait, Philippe Guibert, Geoffroy Lejeune, mais vous pouvez le faire, vous aussi qui nous regardez, et vous restez avec nous sur CNews puisque dans un instant, c'est Soir Info avec Olivier de Kerenfleck. Bonne soirée.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.